Oui, alors Jean Lévis, c'est un sinologue, c'est-à-dire que c'est à la fois un érudit et un provocateur, on va dire. Tant ce qu'on appelle, nous, la vérité en Europe, se modifie dangereusement au contact de la Chine. C'est quelqu'un qui appelle un chat, ou un tigre de papier, ou un dragon, et qui nous invite le plus souvent, nous, Européens, à ne pas prendre nos vessies ou nos naïvetés, pour des lanternes. Alors, dans ce livre, La Chine est un cheval et l'univers est une idée, il nous conte des petites histoires, par exemple celle-ci. En mai 1974, à la fin de la Révolution culturelle, on a découvert, vous vous en souvenez peut-être, on en a parlé dans le monde entier, le tombeau de Qin Shi Huangdi, le premier empereur de Chine et le bâtisseur de la Grande Muraille. Il était enterré, alors pire qu'un pharaon, avec des milliers de statues de guerriers en terre cuite, parfaitement conservées, depuis le 3e siècle avant Jésus-Christ. Alors on s'est extasié sur la perfection de ces statues, on a loué le réalisme des artistes de l'époque, et puis les plus belles pièces ont été montrées à peu près dans le monde entier. Or, ces statues sont des faux grossiers. Vous le saviez? Moi, je ne le savais pas.
Oui.
Moi, je ne le savais pas. Donc, j'ai appris qu'elles ont...
Pardon, hein, juste une incise, et il continue à être présenté, même par
Comme
des
authentique.
journalistes
Comme
de
étant
chaînes
authentique.
d'information, comme étant absolument. Lorsqu'il est visité, il a été visité notamment dernièrement par une grande dame, et les personnes qui l'ont présenté, en effet, l'ont présenté comme des statues bien réelles.
Alors, c'est ce que Jean Lévis, ce qu'il nous dit. Il nous dit, bon, ben voilà, elles ont été refaites, non pas évidemment d'après un modèle dont on n'a aucune idée, mais d'après l'idée que les cadres butés, je le cite là, les cadres butés du ministère de la Culture se font d'une statue funéraire du premier empereur. Il s'agit donc en fait d'un travail moderne, anachronique, patriotique, idéologique, exécuté par des ouvriers dans des fours du XXe siècle, sous la surveillance donc de bureaucrates. Bref, c'est une imposture officielle, un canular. Sauf que ce canular est devenu histoire et réalité. De cet épisode, Jean Lévy, qui ne manque jamais une occasion de se moquer un petit peu, on se demande toujours s'il ne se moque pas un petit peu du monde, il tire une méditation cinglante sur le faux, qui devient donc un fait historique par simple décision d'État, une méditation sur la laideur, pourquoi elle plaît, et surtout une méditation sur notre inaptitude à comprendre le passé. En dehors des catégories ou des certitudes qui sont les nôtres, les certitudes on pourrait dire de la doxa humaniste et platonicienne qui règne en Europe. Systématiquement, Jean Lévy introduit le soupçon, le doute dans toutes ces certitudes très européocentrées. Il montre par exemple très bien que toute restauration en matière d'art ou d'architecture est de l'ordre de la parodie ou du pastiche et que ça ne vise qu'à dépouiller l'objet ou l'œuvre de son épaisseur chronologique. Alors ce n'est pas un traité, c'est plutôt, je dirais, une série d'articles, enfin d'essais, ça s'intitule Essais au pluriel, philosophique et satirique. Et on dirait qu'à chaque fois, Jean Lévy s'inspire, dans chaque chapitre, Jean Lévy s'inspire d'un fait, d'un épisode historique pour se livrer à une méditation souvent cruelle, ironique, alors sur le réel et ses reflets, l'être et les apparences, sur la démocratie et le totalitarisme, la démocratie dont il voudrait nous démontrer la vacuité et les sophismes, sur la liberté et la tyrannie qui n'est pas ce qu'on croit, et sur tous ces sujets, encore une fois, ils nous inquiètent. Alors c'est vrai que c'est un livre brillant, troublant, c'est très difficile à résumer parce que ce sont des articles, à chaque fois c'est un sujet philosophique énorme, complexe, c'est souvent très stimulant, un peu composite à mon goût, ça n'est quand même qu'un recueil d'articles, mais qui, disons, trouve son unité dans un questionnement philosophique sur la vérité et sur le langage, dans la culture chinoise évidemment. Alors pour ça, il convoque aussi bien Confucius que Robert Musil, Hobbes ou Rousseau. Au fond, alors moi, il y a beaucoup de choses qui, je ne vous cache pas, me sont passées un peu au-dessus du bonnet. Ce que j'ai retenu, c'est qu'au fond, il y a cette idée que l'histoire est dévorée par sa trace et le réel dévoré par son écho. C'est une citation. Que l'objectif du pouvoir, quel qu'il soit, c'est l'abrutissement du plus grand nombre. Par la consommation de masse. En gros, le Chinois est aujourd'hui confronté à une sorte de libéralisme totalitaire que l'Occident a du mal à penser et qui l'inquiète. Je crains que Lévy ne fasse qu'accroître cette inquiétude.
Baptiste Liget.
Alors, je dois dire que j'ai été un petit peu surpris de trouver cet ouvrage au programme de jeu d'épreuve, puisqu'on a, disons de manière presque coutumière, de faire face vraiment à des ouvrages dits de littérature. On pour le coup, on est vraiment à la limite de l'ouvrage, plutôt qui relève un peu des idées. Mais qu'importe, un livre est un livre et on le juge en tant que tel. Et je veux dire que dans l'ensemble, j'ai quand même été assez séduit par ce livre de Jean Lévy, qui est effectivement une sorte de compilation d'articles qui sont, disons, un petit peu inégaux, mais dans l'ensemble plutôt de haute tenue. Bah, comme Frédéric Fernet, moi je dois dire que bon, je ne suis pas forcément coutumier, disons, à la philosophie confucianiste ou à ce système de pensée. Donc dès lors, je sens, mais bon, telle est ma faiblesse, que voilà, je n'ai pas forcément toutes les clés pour rentrer dans le système de pensée de Jean Lévy, en tout cas dans certains développements. Bon, je dois avouer que par moments, j'avoue que je n'arrive pas à lire certains développements dans certains des articles, mais malgré tout, et c'est en cela où le livre est malgré tout tout à fait lisible pour nombre de lecteurs, on réussit à se raccrocher au bout d'un moment à un élément ou à un autre. Je dois dire que mon texte préféré, c'est celui qui donne le titre à l'ouvrage, « La Chine est un cheval et l'univers une idée », où il prend vraiment cet exemple du personnage d'Ulrich dans L'Homme sans qualité, et il sort un développement absolument, absolument passionnant. Et justement, il confronte de manière, je dirais, très habile un système de pensée, disons, sur l'ordre de la question de la démocratie telle qu'on l'entend en Europe, et le système totalitaire, vraiment, là encore une fois, avec des guillemets, en Chine. Et c'est absolument passionnant, et son art de digression est mené de manière absolument remarquable de bout en bout. Voilà, je dois avouer que j'ai été assez séduit. Sa prose est dans l'ensemble vraiment assez coulante, assez fluide. Vraiment, on peut tout à fait le recommander, avec néanmoins cette question de la connaissance de clés orientales nécessaires à l'abord de ce recueil de textes.
Sabine Audry.
Ce que dit Baptiste Ligier, je le rejoins sur la question du texte qui donne le titre au recueil, c'est « La Chine est un cheval, une vraie idée ». Finalement, moi je connais mal le travail, l'œuvre de Jean Lévy, mais il me semble qu'une des thématiques principales de son travail, c'est justement de voir les points de jonction entre l'Occident et la pensée, le système de pensée chinois ancien ou moderne. Je crois. Moi, je pense que nos auditeurs ont beaucoup de chance parce que j'aurais aimé avoir la présentation de Frédéric Fernet avant de pouvoir lire le livre, qui rend pour moi le livre beaucoup plus clair en fait sur la cohérence de ce livre que j'ai eu du mal à trouver parce que j'ai commencé logiquement par l'avant-propos qui m'a semblé totalement abscon et qui est de l'auteur hein, et qui selon moi ne rend pas du tout compte du propos du livre. Et après l'avoir terminé, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de truismes dans cet avant-propos. Alors j'ai réussi à le sauter, mais ça a quand même perturbé ma lecture parce que du coup je n'avais pas envie de lire ce livre, j'ai je pense mal compris du moins en partie. Et effectivement, ce qui m'a peut-être le plus intéressé, parce qu'on avait suivi dans l'actualité, c'est la question des guerriers, des statuts de guerriers. Moi, je ne suis pas archéologue, je ne suis pas spécialiste. C'est vrai qu'au moment de... il y a eu l'exposition au British Museum et également à la Pinacothèque de Paris en 2008. Pas mal d'éminents spécialistes qui n'étaient pas d'accord avec Jean Lévy. Donc moi, je n'ai pas la réponse à la question. Et c'est vrai que j'aimerais bien que Jean Lévy, peut-être l'a-t-il fait d'ailleurs, je ne sais pas, propose un ouvrage où il développerait ses thèses et ses explications sur ce sujet. Et les raisons de sa réfutation, il y fait allusion, il est très péremptoire, mais selon moi, je reste sur ma faim sur l'étayage, me semble.
Dis-nous ça.
Moi, je trouve que le propos est quand même pointu, si je puis me permettre. Et pour qui ne serait pas sinologue, du moins familier, en tout cas de la culture et de l'histoire chinoise, si, quand même. Mais ça se lit avec beaucoup d'intérêt. Alors je ne dirais pas avec beaucoup de facilité, ni avec de la facilité, mais ça se lit avec beaucoup d'intérêt. Ça se lit avec beaucoup d'intérêt parce que c'est justement un livre lettré. Parce que c'est une histoire lettrée, et lettrée dans le sens, j'allais dire, le plus vaste du terme. Et là, ce qui est intéressant, et ce qui, à défaut d'emporter, je veux dire, ce qui intéresse vraiment, sont ces allers-retours entre notre Europe intérieure et effectivement la Chine, telle qu'on peut la fantasmer aussi et telle qu'elle existe vraiment. Et ainsi, et aussi, on croise à côté des empereurs, des rhéteurs, des philosophes de ce pays du milieu. On croise Élisée Reclus, Julien Gracq, Borges, Yourcenar, Musil, Rousseau, vous l'avez dit tout à l'heure, Frédéric Fernet, et même Lewis Carroll. Donc ça jette comme ça un certain nombre de passerelles, chinoises d'ailleurs, qui nous aident à franchir et l'espace et le temps à ce niveau-là. Et puis, il y a cette part anecdotique. Alors, pas revenir longuement sur cette histoire de la fameuse cohorte des guerriers du tombeau de Tsingché Wangchi, que moi j'ai appris que ce serait donc une grande supercherie. Ce qui est intéressant, c'est de voir que de la poussière, justement, on peut faire quelque chose, et avec une idée, et une idée de la poussière du temps passé, on met en place une espèce de grand mensonge. Et ça, c'est très, très intéressant. Voilà. C'est aussi un livre autour du langage et sur le langage.
Ça n'est que ça.
Ça n'est quasiment que cela. Hein. Et, voilà, je dirais au fond, c'est ce qu'on appelle un livre intelligent. Et c'est parce qu'on y apprend des choses et que ça donne à penser.
Oui, vous avez les uns et les autres parlé de passerelles. Vous avez dit que Jean Lévy cherchait des points de jonction. Je crois que ce sont plutôt des points de rupture et que lui, je le soupçonne fortement de croire qu'il y a une incompatibilité, qu'on est, que l'Europe est sino-incompatible ou quelque chose comme ça. Je prends juste un exemple. Le peuple. Qu'est-ce que le peuple? Je lis, donc on va dire c'est la doxa chinoise telle que c'est vécu en Chine. En Chine, le peuple ne peut être entendu que préalablement dépouillé de la parole. Ça calme, c'est juste exactement le contraire de chez nous, quoi. Je continue. Le ciel, dont le peuple est l'expression et l'empereur le médiateur, ne parle pas. Il exprime toutefois un avis par des symptômes que la bureaucratie a fonction de déchiffrer. On peut même dire que gouverner, c'est interpréter les signes. Pour tout un courant même, le peuple est la manifestation socialisée du ciel, ce qui explique peut-être qu'il soit si souvent muet. Il y a comme ça des choses qui... Il ouvre des petits abîmes. Alors, on a... J'ai pas le temps de lire le reste, mais sur la tyrannie, c'est pareil. Il renverse complètement le point de vue. Et alors, lui, on ne sait pas trop où le situer, parce que c'est vrai, quand je disais provocateur, parce qu'effectivement, il nous laisse un petit peu en plan, il nous laisse un petit peu au milieu du chemin, dans la mesure où ce sont pas des, c'est pas un essai, c'est pas un traité, ce sont une, en fond, c'est un recueil d'articles quand même. Donc, mais il sème l'inquiétude, il sème
être,
le doute.
Qui pourrait être pris, parce que là, on n'a pas encore parlé, mais moi, je les ai lus souvent comme des compte. Oui. C'est-à-dire comme voilà, Chuang Tzu dirait à son maître, puisqu'il est souvent question de rapport de maître et de disciple. Voilà. Et Jean Lévy joue beaucoup avec ça. Ouais. Et ça, et il y joue d'une manière que je trouve, moi, très littéraire, justement, Baptiste Liger.
Alors, justement, le livre, aussi un de ses intérêts, avec toutes les réserves qu'on a pu évoquer jusqu'alors, c'est que c'est en même temps, sur la couverture, on peut voir le terme essai, en même temps, on peut les lire tout à fait, tous ces fragments, tous ces textes, comme des nouvelles. Donc, ça nous pose aussi cette question sur le genre. Aussi, au sein même de ces textes, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il passe volontiers d'une considération vraiment presque théorique sur le langage à une considération qui relève plus, pour faire simple, de la science politique ou de l'histoire des idées politiques. Et cette façon de passer d'un registre à un autre, il le fait de manière plutôt fluide et il casse bien des clichés sur le clivage entre ce qui relève de la démocratie et le totalitarisme. Il le fait, j'allais dire, plutôt d'une manière assez passionnante dans l'ensemble.
Je ne vais pas résister à cette citation, oui. Page 87, où il cite Joseph Roth. Nous donnons des noms faux à des choses vraies, nous appelons petit ce qui est grand, grand ce qui est petit, nous disons noir le blanc et blanc le noir, nous appelons l'ombre lumière et la lumière ombre, nous disons coloré ce qui est mort et mort ce qui est coloré, les noms et les désignations perdent leur contenu et leur sens, la situation est plus grave qu'à l'époque de la tour de Babel, les langues n'étaient alors que mêlées et l'un ne comprenait pas l'autre parce que chacun donnait un nom différent aux mêmes choses, aujourd'hui au contraire, tout le monde parle la même langue et c'est une langue fausse. Et ça aussi, c'est une provocation, évidemment, de Jean Lévy.
Encore là, on comprend, parce qu'au fond, il s'agit, quel que soit le régime, il s'agit toujours d'euphémiser la terreur, de ne pas dire la chose horrible, de trouver une novlangue qui masque le réel.
Absolument.
Là, on pourrait à la limite se comprendre avec les Chinois, parce que tout gouvernement, tout pouvoir, finalement, a la même contrainte.
Et ce que montre bien Jean Lévy, c'est que ce que l'on appelle la pensée chinoise, au cas où parfois certains sinologues attitré et affirmé ont tendance d'ailleurs à l'oublier, la pensée chinoise est née avec le despotisme impérial et ne peut pas être séparée justement de ce despotisme impérial, d'où cette définition en effet du peuple que vous avez donnée, Frédéric Fernet. Je trouve que c'est à la fois très très littéraire et que ça évidemment c'est très provoquant au sens étymologique du terme puisque ça appelle à la réflexion. Le titre est « La Chine est un cheval et l'univers une idée ». C'est paru chez Maurice Nadeau